Bonne soirée avec nous sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Bras de fer, gazier entre la Russie et l'Europe. La France et l'Allemagne se préparent à une coupure imminente parce que Moscou impose le paiement en roubles dès demain. Les Européens ne veulent pas céder au chantage. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'énergie et les prix. La remise de 15 à 18 centimes sur le carburant demain ne sera pas appliquée partout. On vous dira pourquoi. Dans l'actualité encore, la campagne présidentielle à 10 jours du premier tour. Yannick Jadot au pied d'un incinérateur. Pour parler pollution de l'air, Emmanuel Macron réactive de son côté la diabolisation de l'extrême droite. Au procès des attentats du 13 novembre, des images du Bataclan pourront être diffusées demain. Les parties civiles restent partagées. Et puis de la neige, un 1er avril, c'est pas une blague, 11 départements sont en vigilance orange ce soir. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on regarde comment va la culture, qui a été servie pendant les 2 ans de Covid, mais qui a du mal à relever la tête. Les salles de cinéma, notamment, ne font pas le plein. Alors que pourtant, les problématiques de culture, ils touchent aussi au pouvoir d'achat, par exemple. Et ce thème est totalement absent de cette campagne, ou quasiment peu. On en parle rarement de culture en général pendant les présidentielles. Cette campagne ne fait pas exception. Allez-y pour vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Dès demain, le gaz pourrait donc être coupé à ceux qui ne payent pas en rouble. Vladimir Poutine réitère sa menace, mais les Européens ne sont pas prêts à céder au chantage. Les contrats prévoient un paiement possible en euros ou en dollars. Si la Russie n'en veut pas, la France et l'Allemagne l'affirment. Aujourd'hui, elles feront sans le gaz russe. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Les choses semblent donc s'accélérer. Le tuyau russe pourrait-il vraiment être coupé dès demain?
Alors en tout cas, la communication des deux ministres de l'économie français et allemand est un peu plus claire. Pas de paiement possible en roubles, cela veut dire que l'Europe renvoie la menace à son expéditeur. Il incombe désormais à Vladimir Poutine de prendre seul la décision de poursuivre ou d'arrêter l'approvisionnement de l'Europe en gaz. Dans ce bras de fer, Vladimir Poutine aura donc la responsabilité politique et économique de se priver des ressources européennes. Côté européen, l'Europe, elle, n'a pas décidé d'embargo sur les hydrocarbures russes. Elle laisse donc à Vladimir Poutine la responsabilité, explique Nicolas Goldberg, spécialiste en gaz.
Ce qui est sûr, c'est que politiquement, c'est inaudible pour l'Union européenne de payer en roubles. Comme l'a dit un certain communiqué de Gazprom, il n'y aura pas de gagnant dans cette affaire. Tout le monde va y perdre. Si l'initiative vient de Vladimir Poutine, et c'est quasiment le cas quand il demande de les payer en roubles, parce qu'on ne va pas pouvoir payer ses contrats en roubles, c'est plus facile politiquement de l'assumer.
Aucune communication sur la suite. Côté européen, la décision incombe clairement désormais au Kremlin.
Et nous, combien de temps peut-on tenir sans gaz russe?
Alors, pas de panique sur une rupture. Dans l'immédiat, la France dispose de ses réserves, des cuves de gaz qu'il faut, qui sont toujours remplies à 28% et qui permettent de finir l'hiver. Ce remplissage des réserves de gaz impliquera en revanche des choix pour l'hiver prochain, car c'est en été que se remplissent les réserves pour l'hiver d'après. Cela veut dire donc économiser ses réserves pour limiter les difficultés pour l'hiver prochain. En toute logique, les entreprises et les particuliers seraient appelés à limiter, à réduire leur consommation de gaz mais aussi d'électricité si la Russie venait à prendre ce type de décision.
La guerre en Ukraine qui fait aussi flamber le prix des carburants. Les États-Unis ont donc décidé de sortir de leurs réserves 1 million de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, décision sans précédent pour la Maison-Blanche. Alors qu'en France, pour amortir le choc, le gouvernement avait annoncé une remise à la pompe de 15 à 18 centimes le litre dès demain et pour 4 mois. Mais tout le monde n'en bénéficiera pas tout de suite parce que la ristourne ne marche pas sur le pétrole encore en stock. Beaucoup de stations-service devront donc d'abord écouler ce qu'elles ont avant de pouvoir commander et vendre moins cher. C'est le cas de la station de Baguet-Morvan près de Dol de Bretagne en Ille-et-Vilaine où s'est rendu Loïc Guélec.
Cette petite station-service est située en plein cœur du village mais elle est attenante à un garage qui est la principale activité de la gérante. Marie-Christelle Jacquet va vendre dès ce vendredi l'essence uniquement à prix coûtant, c'est-à-dire qu'elle renonce à sa faible marge.
La station, c'est plus un service, c'est pas elle qui nous fait vivre. Je vais renlever les 5 centimes de marge qu'on avait et du coup laisser le reste de mon stock au prix coûtant.
Marie-Christelle Jacquet va attendre de renouveler son stock de carburant au milieu de semaine prochaine pour appliquer la baisse de 18 centimes par litre.
La semaine prochaine, j'aurai besoin de faire une commande. Donc là, pareil, si on est logique avec l'État, je devrais l'acheter au moins 18 centimes TTC de moins que je ne l'achète aujourd'hui.
Une baisse qui ne changera pas grand-chose pour Gérard, un retraité.
C'est un peu cher, oui. Même trop cher. L'essence, il était à 1,94 la semaine dernière, il est passé à 2,14 cette semaine, donc ça veut dire que c'est déjà 20 centimes de manger. Je ne sais pas si ça va durer longtemps comme ça.
Pour Pierre, qui se rend de temps en temps à la station-service, seule une baisse des taxes serait significative.
Moi, j'en pense que c'est bien de la fumisterie. S'ils baissaient les taxes, je pense qu'ils gagneraient plus d'argent que d'augmenter comme ils les augmentent. Parce que les gens prennent moins d'essence à cause des augmentations. Et si les taxes étaient baissées, les gens continueraient de rouler et gagneraient autant d'argent.
Avant la baisse, la station de Bagay-Morvan affichait un litre de gazole à 2,19€ et 2,10€ pour le samplon 95.
Un reportage de Loïc Guélec, France Bleu Armorique, avec un diesel plus cher que l'essence, alors que c'était l'inverse depuis longtemps. Les prix continuent de grimper en France de 4,5% en mars sur 12 mois glissants. L'inflation moins forte tout de même que chez nos voisins, de plus de 7 en Allemagne, presque 10 en Espagne, en partie parce que le gouvernement a plafonné les prix de l'électricité et du gaz. Et conséquence mécanique de cette inflation, le SMIC devrait atteindre les 1 300 € net le 1er mai, revalorisé pour la troisième fois en 7 mois sans coup de pouce supplémentaire. Cela va directement bénéficier à plus de 2 millions de salariés.
Et en Ukraine, l'OTAN s'attend à de nouvelles offensives russes.
Peu d'illusions donc sur les progrès des négociations entre délégations ukrainiennes et russes pour le moment. Moscou a tout de même annoncé une trêve aujourd'hui pour évacuer les civils du port de Mariupol. Les Ukrainiens ont envoyé 45 bus, mais Anna non plus n'a pas beaucoup d'illusions. Réfugiée à Lviv, elle est originaire du port de Mariupol.
I don't believe in this news. I don't believe...
Je n'y crois pas. Je ne crois plus les Russes. Quand ils ont annoncé la mise en place d'un corridor humanitaire, ils ont tiré sur le convoi. Je ne les crois plus. Pour eux, c'est simple d'évacuer les gens du côté de la Russie. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'accepter. J'espère vraiment avoir tort. J'espère vraiment que les gens qui sont restés là-bas, mes amis, mes collègues, j'espère qu'ils pourront partir avec leurs propres moyens, comme ma mère et ma sœur, qui ont fui avec leur voiture. Ce n'est pas prudent, mais elles devaient le faire.
Le témoignage d'Anna à Lviv au micro de nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot. Une guerre militaire est aussi une guerre de renseignement et les Français sont passés à côté de l'invasion russe alors que les Américains l'avaient prévu au jour près. Le patron du renseignement militaire français en fait les frais, le général Éric Vidot quitte ses fonctions. La guerre en Ukraine qui a désarmé la campagne présidentielle française et à 10 jours du premier tour, les candidats tous bords craignent une abstention record. Le président candidat semble, lui, se préparer à un duel avec Marine Le Pen, virulent aujourd'hui en Charente-Maritime. Une candidate qui serait, dit-il, banalisée. On va y revenir. Mais d'abord, alors que plusieurs régions ont connu des pics de pollution aux particules fines ces derniers jours, Yannick Jadot était à Ivry-sur-Seine aujourd'hui pour évoquer le sujet. Déplacement suivi par Antoine Gignot.
Face aux colonnes de fumée de l'incinérateur d'Ivry, c'est aux parents d'élèves qu'il s'adresse.
Ça fout les jetons quand même, ça fout la trouille.
On s'inquiète.
Il y a des conséquences réelles d'asthme, par exemple.
Le candidat écologiste rebondit, promet des moyens pour évaluer et lutter contre la pollution.
Il nous faut à la fois agir sur la prévention et une vraie politique épidémiologique qui nous permet de savoir quelle est la réalité des pollutions. Mais c'est aussi, quand on parle de cet incinérateur, la question de l'utilité de l'incinérateur en lui-même. Vous avez 30 fois plus d'emplois à trier les déchets qu'à les brûler. Donc on a tout à gagner à changer de modèle.
Et le discours fait écho. Dans la foule, Chris Scherrer du collectif 3R sort le graphique qui retrace les mesures de dioxine.
Les gros barres que vous voyez qui sont noires là, c'est nous ici, Ivry.
Pour elle, la présence de Yannick Jadot, c'est la preuve de son engagement.
Le fait que des politiques se déplacent en fait sur le terrain, il y en a très peu en fait. Moi ça fait la deuxième fois que je vois M. Jadot ici et honnêtement, je n'ai vu aucun autre politique s'intéresser à cette proche banlieue très dégradée en termes de pollution.
Sourire et hochement de tête pour Tony Renucci, le directeur de l'association Respire, qui classe aujourd'hui Yannick Jadot en tête des candidats dont le programme est susceptible de lutter contre la pollution atmosphérique. Mais il précise immédiatement, il faut au-delà des engagements, des plans d'action précis
pour pouvoir les appliquer.
Reportage Antoine Gignot et bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Les échos de campagne avec vous ce soir. Je le disais, les derniers sondages donnent cette tendance d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et un écart qui se resserre. Ce ne sont que des intentions de vote, évidemment. Mais côté Macronie, Élodie, on réactive du coup la diabolisation.
Oui, c'est Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien qui prévient le programme de Marine Le Pen est dangereux. C'est aussi Emmanuel Macron aujourd'hui à Fouras qui parle du tandem d'extrême droite Le Pen-Zemmour, mettant implicitement en garde contre le report de voix dont pourrait bénéficier la candidate du RN. Réponse de Marine Le Pen sur Twitter. Emmanuel Macron fuit le débat et tient des propos sans queue ni tête, faute d'arguments.
L'extrême droite ciblée aussi par Fabien Roussel.
Le candidat communiste était invité de la matinale de France Inter.
L'extrême droite en France n'a jamais été aussi haut ces 15-20 dernières années. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme progrès pour le monde du travail, pour les salaires, pour le mieux vivre, pour notre industrie? Que dalle! Voter pour l'extrême droite, ça ne rapporte rien.
Fabien Roussel qui ce matin a aussi de nouveau défendu l'utilité de sa candidature, répondant ainsi à ceux qui le pressent de rejoindre Jean-Luc Mélenchon.
Les Insoumis en conférence de presse ce matin qui rêvent de faire mentir les sondages.
Rêvent de terminer second le 10 avril et qui aiguisent leurs arguments face à Emmanuel Macron. Parmi les angles d'attaque, la polémique sur les cabinets de conseil. Manuel Bompard, directeur de campagne.
Oui, ça s'invite dans la campagne. Et je pense que de ce point de vue-là, et si on veut assainir tout ça, le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote qui permet de remettre sur la table nos institutions, de réécrire nos règles du jeu, de remettre un peu d'ordre dans tout ça.
Manuel Bompard, qui sur Mediapart est aussi revenu sur l'une des propositions de Jean-Luc Mélenchon, inscrite dans l'avenir en commun, mais qui jusqu'ici nous avait échappé, la création d'un nouveau jour férié, le 9 décembre, pour célébrer la loi du 9 décembre 1905 qui sépare les églises et l'État. Et si ça revient sur le tapis, Hélène, c'est notamment pour répondre aux critiques de leurs adversaires de gauche sur les ambiguïtés présumées de la France insoumise avec la laïcité.
Autre écho du jour, Élodie, les campagnes s'invitent dans la campagne.
Des membres du Parlement rural français qui réunit plusieurs associations d'élus ruraux font le tour des QG, des élus que les candidats, on se rappelle, ont bichonné il y a quelques semaines lors de la collecte des parrainages. Aujourd'hui, il s'agit donc de ne pas se faire oublier. Ils demandent notamment un plan de 10 milliards d'euros sur 5 ans pour leur territoire.
Et on termine avec cette info signée le Dauphiné Libéré.
Une ancienne actrice porno connue sous le doux nom de Joséphine de l'île Maurice et son mari est producteur viré du parti des Éric Zemmour. Ils refusaient de mettre leur blog en stand-by, ce qui mettait mal à l'aise le reste de leur bureau en Ardèche. Les deux produits X dénoncent la discrimination dont ils sont victimes.
Écho de campagne ciné ce soir, Élodie Forêt. Une bonne nouvelle côté Covid, c'est la levée de l'état d'urgence sanitaire aux Antilles, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. La situation s'y stabilise, la pression hospitalière diminue, alors qu'en métropole, les contaminations quotidiennes dépassent toujours les 6 chiffres et de beaucoup, plus de 160 000 les dernières 24 heures. Le nombre de tests a encore bondi de 27% la semaine dernière, 3 800 000 personnes sur 7 jours, un rebond tel que le gouvernement a décidé de baisser les tarifs, 4 euros de moins en pharmacie. C'est indolore pour le testé, mais pas pour les pharmaciens, d'autant plus en colère que le prix baisse moins pour d'autres professions, particulièrement pour les médecins. Pierre-Olivier Variot est président de l'USPO, l'Union des syndicat de pharmaciens d'officine.
Pour moi, c'est vraiment une insulte à notre profession. Quand un même acte de dépistage, rendu de résultat aux patients et enregistrement est payé 1,90€ à un pharmacien, 5€ et quelques pour d'autres professionnels de santé et un peu plus de 24€ pour un médecin, expliquez-moi la rationalité, expliquez-moi l'équité. On voit bien que la volonté du gouvernement, c'est d'arrêter les tests. La stratégie de dépistage et de testing est une bonne stratégie, a peut-être atteint la limite économique du gouvernement. Donc plutôt que de le dire, ils agissent comme ça en démobilisant ceux qui faisaient le plus de tests, c'est-à-dire les pharmaciens qui faisaient 85-90% des tests réalisés en ville. Quand on en parle avec le ministère, ils nous répondent on a baissé plus vous que les autres parce que comme vous en faites plus, vous allez gagner quand même encore. Mais c'est la punition à celui qui travaille bien. C'est pas juste. On ne peut pas voir l'investissement des pharmaciens durant cette crise que par le prisme de la dépense. C'est ce que fait aujourd'hui l'assurance maladie. Là, il y a un vrai ras-le-bol.
Pierre-Olivier Variot, joint par Anne Ronstein. On évoquait hier à cette même heure cette contamination sans précédent en France à l'Escherichia coli. Nestlé a fait des tests aujourd'hui dans l'usine de Caudry dans le Nord qui produit les pizzas Buitoni incriminées sans rien trouver. L'entreprise a fermé les deux chaînes de production du site. Deux enfants sont décédés, des dizaines d'autres malades.
C'est le premier groupe antifasciste dissous par le gouvernement.
Le groupe dit GAL en région lyonnaise, dont la dissolution a été actée en Conseil des ministres cette semaine. Il va faire appel auprès du Conseil d'État. Le reportage à Lyon est signé Mathilde Imberti.
Le ministère de l'Intérieur reproche aux antifascistes lyonnais plusieurs appels à des manifestations non déclarées ayant mené à des dégradations, d'avoir aussi sur les réseaux sociaux relayé certaines publications, d'être un groupement incitant à la haine et à la violence, en particulier contre les forces de l'ordre. Les sympathisants s'en défendent, dont cette jeune femme.
On se bat contre les discriminations, quelles qu'elles soient, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis de toutes les personnes agressées par des groupuscules fascistes, mais aussi par des tendances d'extrême droite au sein des gouvernements, au sein des institutions. Et donc, de manière générale, non, on n'appelle pas à la haine, mais au contraire, à se bagarrer contre les discriminations, quelles qu'elles soient.
La dissolution n'a pas de fondement légal, plaide leur avocat. Elle est politique, selon lui, à quelques jours de l'élection présidentielle.
Tout est faux. Vous n'avez pas d'imputation de ces violences susceptibles d'être étayées contre un membre, un représentant, un sympathisant, un proche de la GAL. Mais vous avez aussi des reproches qui sont, je pense, encore plus graves sur l'atteinte à la liberté d'expression. C'est-à-dire que finalement, ce qui est reproché à la GAL, c'est la liberté de son ton lorsqu'elle vient dénoncer les violences policières. Et ça, c'est problématique.
Il s'agit de la première dissolution d'une organisation d'extrême gauche depuis 40 ans et la fin d'Action Directe, souligne Maître Olivier Forêt. Il prépare un recours devant le Conseil d'État. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Le porte-parole du gouvernement avait fait savoir de son côté que le groupe était connu pour ses actions violentes et ses appels à la haine en annonçant la dissolution hier en Conseil des ministres. Les images et le son des attaques du 13 novembre au Bataclan seront bien diffusées demain devant la cour d'assises spéciale à Paris. Le président vient d'en décider au terme de plus d'une heure et demie de débat avec de multiples interventions des avocats des partis civils. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Car les avis sont toujours très partagés parmi les victimes sur cette question.
Oui, presque autant d'avis que de victimes finalement, même si une majorité s'est prononcée en faveur de la diffusion de certaines images du Bataclan ainsi que d'extraits sonores de l'attaque captés par le dictaphone d'un spectateur, une demande qui émanait de l'association de victimes Life for Paris.
La réalité de cette soirée, c'est la violence, c'est le sang et il faut aussi savoir s'y confronter.
Olivier Laplot, vice-président de l'association.
Ma réalité très personnelle est celle de quelqu'un qui est resté loin des faits, bloqué dans une loge, et donc j'ai besoin de reconstituer, à la fois par les images et le son, ce qui s'est passé ce soir-là.
L'horreur de ce soir-là, les victimes l'ont directement vécu, pas besoin donc de les infantiliser. D'ailleurs, les scènes de crime sont habituellement montrées dans les cours d'assises, pas question donc d'y déroger ici, d'autant que cela peut permettre de confronter les accusés à la réalité des faits. Autant d'arguments développés cet après-midi en faveur de cette diffusion, quand d'autres s'y sont dit farouchement opposés. Maître Victor Edoux a par exemple porté la voix d'une de ses clientes.
C'est une partie civile qui a été gravement blessée au bar du Bataclan, et sur les images on voit effectivement des traces de sang qui pourraient correspondre aux traces qu'elle a laissées lorsqu'elle a été tirée par la BAC. Donc c'était une position très personnelle, elle ne voulait pas exposer ce qu'elle considère comme son intimité, sa vie privée.
Mais le président a donc jugé ces diffusions utiles à la manifestation de la vérité, seul critère réellement valable devant la cour d'assises.
Charlotte Piret en direct de la cour d'assises spéciale avec Florent Layani. Ils ont auditionné tous les grands patrons de médias français des semaines durant sur un sujet clé, d'autant plus en période de campagne. Les membres de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias viennent de rendre leur rapport fourni, près de 400 pages et 32 propositions qui n'ont pas été simple à formuler parce qu'il y a eu beaucoup de débats, Alexandra Hacoun.
C'est même par là qu'a commencé le rapporteur de la commission, le socialiste David Assouline, dire à quel point les débats pour parvenir à un consensus ont été houleux.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dureté, voire de violence verbale dans les propos.
En tout cas, après 4 mois de travail et près d'une cinquantaine d'auditions, les 21 membres de la commission sont parvenus à se mettre d'accord. D'abord sur un constat, la loi de 1986 sur la liberté de communication est totalement obsolète à l'heure d'Internet.
On a besoin d'une réflexion globale sur le nouvel écosystème et pas seulement de boucher des trous.
Parmi les 32 idées sur la table, notamment pour renforcer l'indépendance des rédactions, les sénateurs proposent que chaque groupe de médias se dote d'un administrateur indépendant. Ils proposent aussi un renforcement des comités d'éthique.
La loi de 2016 qui avait ce but a quelques trous dans la raquette.
Autre idée, une réforme des aides à la presse où serait prise en compte la situation financière des groupes auxquels appartiennent les titres qui les réclament, mais aussi le nombre de journalistes qui y travaillent. Et puis, pour faire face à la concentration du privé, les sénateurs jugent indispensable un audiovisuel public fort, avec une fiscalité autonome et pérenne. Voilà pour les propositions. Reste à savoir maintenant ce que le prochain gouvernement en fera. S'en servir pour bâtir une grande loi qui réformerait vraiment le secteur, c'est ce que souhaitent les sénateurs, ou s'en servir pour qu'elle ait un meuble.
Voilà, en attendant de le savoir, un peu de douceur, un petit duvet blanc qui peut aussi conduire à pas mal de galères. 11 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Un mot pour vous dire, juste avant la météo, que les transports scolaires seront suspendus dans le Pas-de-Calais, la Somme et dans une partie du Nord demain.
Merci beaucoup Hélène Filly. On va y venir effectivement dans un tout petit instant. Juste après, il y aura évidemment le téléphone sonne. On va parler culture qui peine toujours à remonter la pente du Covid. Les spectateurs ne sont pas revenus, notamment dans les salles de cinéma. Un thème, la culture, qui pourtant est totalement absente ou presque, on va le dire, de la campagne électorale. Allez, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau, bonsoir Jean-Pierre, on le disait, 11 départements en vigilance orange, neige et verglas.
Oui Fabienne, la neige est attendue dès cette nuit entre les Hauts-de-France et la Normandie, sans oublier le Limousin et le Massif Central. Et demain toute la journée, durant cet épisode, les cumuls atteindront 2 à 5 cm localement, 10 en pleine, sur ces 11 départements placés en vigilance. Et puis la neige va tomber en abondance entre les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes. On attend 10 à 30 cm sur le Massif Central, 20 à 40 sur le Massif Pyrénéen et jusqu'à 50 cm sur les Alpes. Ce temps hivernal sera accentué par un vent assez fort de secteur nord. Pour les autres régions, prévoyez un ciel de traîne avec quelques averses entre la Bretagne et l'Aquitaine. En revanche, autour de la Grande Bleue, le soleil va briller généreusement. La tramontane va souffler jusqu'à 100 km/h dans son domaine. Et puis côté température, demain matin, les gelées seront fréquentes. Les maximales l'après-midi afficheront 3 à 6 degrés pour la moitié nord. N'attendez pas plus de 4 degrés à Paris. Comptez 7 à 12 pour la moitié sud et jusqu'à 17 degrés au bord de la Grande Bleue, avec 17 à Nice par exemple.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.